Voilà, chers bien-aimés, bonjour à tous et je vous invite à courber vos têtes encore un instant devant le Seigneur pour lui demander de sanctifier ce temps de prédication, que nous puissions être profondément à son écoute dans ces temps particuliers que vous vivez en tant qu'Église et que nos cœurs soient disposés à entendre sa parole. Tu es ce grand Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et tu règnes dans ta majesté. Nous venons devant toi pour te demander de sanctifier nos cœurs et de sanctifier ce temps, afin que ton grand nom soit sanctifié au milieu de nous et dans cette région du Pays Basque. Et encore ailleurs. Viens par ton esprit, Père de gloire, et consacre ces temps dans le plus beau nom, dans celui de Jésus, dans le nom de cet agneau de Dieu, que je te prie de nous aider par cette prédication à contempler, à regarder, peut-être pour certains comme jamais. Oh oui, Père, aide-nous à voir Jésus. Aide-nous à regarder Jésus. Et apprends-nous à regarder Jésus. Non pas seulement parce qu'il nous a rachetés, même si c'est quelque chose d'extraordinaire, de grand et de merveilleux, et nous faisons bien de te louer. Mais aide-nous à regarder Jésus pour ce qu'il est. Aide-nous à regarder Jésus pour Jésus, pour son nom. Aide-nous à regarder Jésus pour ses âmes et non pas pour nous-mêmes, pour lesquelles son sang crie encore aujourd'hui plus fort que celui d'Abel. Apprends-nous à contempler Jésus, non pas pour nous-mêmes, mais pour lui-même et pour toutes ses âmes qui en grand nombre, chaque seconde, partent en enfer. Et toutes ces âmes, si elles ne partent pas chaque seconde en enfer par la mort, après quoi vient le jugement, et sans cette justice, partent dans la perdition. Pour ces âmes qui sont déjà dans l'enfer, déjà dans la perdition, déjà dans la mort spirituelle, déjà dans la dépression, déjà dans le noir, toutes ces âmes qui passent pour vivantes, mortes qu'elles sont, toutes ces âmes qui passent pour heureuses, malheureuses qu'elles sont, toutes ces âmes dans l'illusion d'une vie de vanité, toutes ces âmes dans l'illusion d'un monde qui déjà montre les signes qu'il passe et qui va bientôt passer pour toujours. Éternel notre Dieu, aide-nous à contempler Jésus. Parce qu'il n'y a qu'en contemplant Jésus que ce feu sacré viendra brûler au-dedans de nos entrailles, viendra briser notre égoïsme, viendra détruire toutes nos idoles, et la première et la plus forte, notre moi, celle que nous sommes. Oh oui, Père, sois ce Père qui vient nous briser, sois ce Père qui vient nous corriger, pour que nous ne soyons pas un peuple qui proclame ta parole, mais qui la vit, qui la met en pratique. Que nous ne soyons pas un peuple qui proclame des paroles, mais qui vit ta parole. Que nous ne soyons pas un peuple qui aime en parole, mais avec action et avec vérité. Oh oui, Père, merci pour ton... ton si grand salut. Ô Éternel, il n'y a pas un de nous ici, pas un, qui pourrait, par toutes ses œuvres, apporter une quelconque assurance de salut. Parce que tu es saint, tu es trois fois saint, tu es parfaitement saint, tu es parfaitement juste. Oh, merci pour Jésus, le seul digne, le seul digne, le seul espoir, la seule espérance. Merci pour Jésus qui nous a sauvés à un prix que nous considérons encore si peu, pour lequel nous aurons l'éternité afin de rendre grâce. Alors, Père, viens nous aider à regarder cet agneau. Donne-nous, à nous qui sommes sauvés par ce sang si précieux, la vision de la croix. Ô Père, je pourrais m'arrêter et ne pas rajouter des paroles et laisser mes bien-aimés avec ces paroles, que l'Éternel, dont le nom est grand et redoutable, et qui revient bientôt, vous donne, dans son amour, la vision de la croix, une pleine vision de la croix. Viens nous aider en ces temps, Père Céleste. J'aimerais donner ce matin un message particulier pour les chrétiens. Je n'aimerais pas que si des personnes n'ont pas fait cette expérience essentielle et bénie de la nouvelle naissance, qui commence par la repentance et alors la foi dans le sacrifice de Jésus, qui nous fait passer de la mort à la vie, par la régénération par le Saint-Esprit. Je n'aimerais pas que vous puissiez être choqués par ces paroles, mais l'Église a, je le crois, besoin des paroles que je donnerai avec mon cœur, sans jugement, mais avec amour, avec des larmes qui proviennent du lieu secret, et non pas de ma tête, ou même de mon cœur, avec ses propres émotions, mais avec, je le crois, les sentiments qui étaient et qui demeurent en Jésus-Christ, qui sur la croix disait « j'ai soif » et qui aujourd'hui dans le ciel et sur la terre dit encore « j'ai soif ». L'Église a besoin d'entendre cette parole qui va la briser, qui va la sanctifier, pour alors lui permettre de laisser Jésus sauver ceux qui en ont absolument besoin. Alors ce message s'adresse en particulier à l'Église. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Votre Église a décidé, je le crois par l'action du Saint-Esprit, de vivre un temps de prière et de jeûne de 3 semaines, afin de voir Dieu agir sur cette région. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que nous ne verrons pas Dieu agir sur une région si nous ne voyons pas la croix agir dans notre cœur. Nous ne verrons pas la gloire si nous ne voyons pas la croix. Nous ne verrons pas la puissance de la résurrection si nous ne voyons pas la puissance de la mort. Ma prière cette région et peut-être pour tous ceux qui pourront entendre ce message, c'est qu'en particulier les responsables de l'Église, mais chaque chrétien puisse percevoir ce qu'est non sa volonté, mais la volonté de Dieu. Puisse percevoir non pas ce qu'est sa pensée, mais la pensée de Dieu. Puisse percevoir non pas ce qui est son projet, mais le dessein de l'Éternel. Et j'aimerais vous dire que chacun de vous, chacun de nous, est appelé à jouer un rôle dans cette volonté de Dieu, dans ce dessein de Dieu, dans cette pensée de Dieu. Parce que nous sommes tous membres de son corps. Nous sommes tous membres de son corps et nous sommes tous appelés au ministère, ce qui veut dire appelés à son service. Si nous sommes chrétiens, nous sommes appelés comme Christ à être des serviteurs. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Jésus a agi parmi nous sur la terre il y a 2000 ans, sur la terre d'Israël pendant 3 ans. Il est mort, ressuscité, monté aux cieux, et il a alors envoyé son Saint-Esprit pour continuer son ministère au travers de l'Église qui est son corps. L'Église est le corps de Christ. Et chaque personne passée de la mort à la vie est membre de son corps et appelée à le servir. Certes, comme nous le dit l'Épître aux Éphésiens, Dieu, par Jésus, a fait des dons aux hommes, des ministères, dons de Christ, ce que l'on appelle les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais ce n'est pas parce que ces ministères donnés souverainement par Dieu pour être, pourrait-on dire, la charpente de ce corps ont été donnés souverainement par Dieu que nous ne sommes pas tous appelés à servir et à faire partie de ce corps, chacun pour notre part. Et sans un authentique corps de Jésus où chacun rentre dans sa vocation, il n'y a pas Jésus. Et Jésus est la lumière. Et il n'y aura pas d'aurore sur cette terre du Pays Basque et ailleurs si Jésus n'est pas la lumière. Et pour que Jésus soit la lumière, nous avons chacun pour notre part à être des lumières, pour qu'ensemble, telles des bougies qui se rassemblent, la même flamme, la flamme du Messie qui vient bientôt, puisse briller. Mais cette flamme, elle ne viendra pas de nous. Elle ne viendra pas même de notre désir de voir Dieu et de voir Dieu agir. Cette flamme, elle viendra de Jésus. Cette flamme, elle viendra de Christ. Et j'aimerais te dire, chrétien, que cette flamme, elle viendra de Christ au-dedans de toi et dans tes entrailles. Au chapitre 10 de l'Apocalypse, nous avons ces paroles qui sont reprises du prophète Ézéchiel au chapitre 3. Et je vous les lirai rapidement moi-même, qui nous disent, Apocalypse 10, verset 8 et suivant, « Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau en ces termes. Et ma prière est que nous puissions entendre cette voix qui vient du ciel dans un face-à-face personnel avec Dieu, pour entendre cette voix qui vient du ciel et nous dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le, avale-le. Il remplira d'amertume tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus mangé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, de rois. Si nous voulons être un véritable corps de Christ qui par essence est prophétique, à savoir porte-parole de Dieu, témoin de Dieu pour ce monde, l'œuvre de la croix, l'œuvre du Messie va devoir se faire, non pas dans notre bouche, pour que cela soit doux comme du miel, et cela doit l'être, bien sûr. Mais cette vision de la croix, cette parole de Dieu, ce livre, nous sommes appelés à le manger, afin qu'il descende dans nos entrailles. Et pour quiconque aura fait cette expérience, pour quiconque aura entendu cette voix du ciel et aura vu Jésus, aura vu la croix, aura vu son sang, non pas seulement pour laver ses péchés, mais pour ce qu'il est en lui-même, pour le cri qui sort du cœur et du sang de Jésus percé par la lance. Alors cette personne connaîtra l'amertume dont nous parle ce prophète. Cette personne pourra devenir prophète, porte-parole de l'Éternel. Cette personne pourra laisser Jésus-Christ faire son œuvre. Cette personne sera morte et Jésus sera le vivant. Et la lumière pourra venir. Mais pour cela, bien-aimés, nous sommes appelés à entendre cette voix du ciel et à manger ce livre. Alors ma question, qui va manger ce livre ? Et qui va manger ce livre, non pas en disant « Amen », avec la langue en disant « Oui », mais par sa vie. Vous connaissez ce que dit Jacques dans son épître. Et je crois que nous devons recevoir cette parole personnellement, chaque matin, chaque jour, chaque instant. Nous nous abusons si vite nous-mêmes, comme des personnes qui se regardent dans un miroir et disent « Amen » et aussitôt partent-elles qu'elles ont oublié. Et le peuple de Dieu aujourd'hui est un peuple oublieux, irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, comme le dira ce même Jacques. Et ainsi, qu'ils ne s'imaginent pas qu'ils reçoivent quelque chose du Seigneur qui vient du ciel pour faire son œuvre. Nous pouvons avoir beaucoup de projets, faire beaucoup de choses. Mais si ce n'est pas le ciel qui l'accomplit en nous, nous finirons par être déçus. Parce que nous serons stériles, malgré nos désirs, malgré notre volonté. Alors, qui descendra en lui-même ? Qui passera du temps chaque jour? Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Et chaque matin, ils récoltaient la manne dans le désert. Jésus n'est pas la manne qu'ont mangé nos pères. Il est ce pain vivant descendu du ciel. Mais de la même manière que nos pères avaient besoin de manger et de boire à ce rocher qui était Christ pour marcher dans ce désert, chaque jour, nous avons besoin de manger ce livre et de nous abreuver de cette eau chaque matin, chaque jour. Combien de temps passes-tu avec Dieu chaque jour qu'il te donne de vivre, ô toi, chrétien ? Ô toi, Église du Seigneur ! Parce que Dieu n'attend pas de nous des grandes dispositions de cœur, même s'il l'attend bien sûr. Dieu attend de nous des actes. Ce qui pèse dans la balance de Dieu, c'est ce que nous sommes en Christ. Le prophète Jérémie au chapitre 6 dit ceci. Verset 16 et suivant. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie ? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent : « Nous n'y marcherons pas. » Et je crois qu'une partie sincère de l'Église dit aujourd'hui « Amen » n'est pas à ce point rebelle pour dire « Nous n'y marcherons pas sur ces anciens sentiers que sont les fondements véritables de Dieu. » L'Église d'aujourd'hui veut vivre des choses, va dire « Amen », va même avoir de l'entrain. Mais quelle est la vérité de sa vie, de tous les jours, que l'on ne voit pas quand nous nous réunissons à l'Église, mais quand nous vivons chaque jour, personnellement, dans notre communion avec Dieu, au sein de notre couple, au sein de nos relations, au travail. Dieu attend des actes, Dieu attend une vie qui témoigne en vérité de ce oui. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent : nous n'y serons pas attentifs. Nous disons souvent : le Seigneur revient bientôt. Et nous disons souvent : Amen. Qui dit Amen par sa vie de tous les jours ? Qui tremble devant le fait que le Seigneur revient bientôt. Le prophète Amos, lorsqu'il parle du jour de l'Éternel à sa génération, image de notre génération apostate qui abandonne la foi, il lui dit à cette génération qu'elle croit que le jour de l'Éternel sera lumière, mais que ce jour sera ténèbre. On peut chanter Maranatha. Et oui, nous le faisons bien, mais qui pleure ? Parce que Maranatha, le Seigneur est là, le Seigneur vient. Cela veut bien dire que tu seras avec lui pour toujours. Mais cela veut dire aussi que des ténèbres, que seules des personnes qui méditent profondément la parole de Dieu peuvent percevoir, et des personnes qui prient et qui ont une communion avec Dieu, des ténèbres terribles, atroces, vont s'abattre sur cette terre et sur le grand nombre. Parce que le petit nombre sera sauvé. Et le grand nombre sera sous la terreur des jugements de Dieu. Alors, qui pleure ? Qui ressent cette amertume ? Vous ne pouvez pas recevoir cette compassion, cet amour, cette amertume de vous-même. Il n'y a qu'en avalant ce livre, il n'y a qu'en contemplant Jésus, que ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ pourront venir en nous. Il n'y a pas d'autre chemin. Et ce chemin, il est resserré. Cette porte, elle est étroite. Et il n'y en a pas beaucoup qui la prennent. Et si nous voulons voir Dieu agir, alors, bien-aimés, nous aurons besoin de passer par cette porte étroite, de passer par ce chemin resserré. Votre responsable a donné comme direction dans la prière et comme une parole pour aider dans ce temps, cette parole de Jérémie 29 qui dit ceci : je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, oracle de l'Éternel, et je ferai revenir vos captifs. » Cette parole prophétie de Jérémie, elle a été méditée par un homme de Dieu, sur lequel nous sommes appelés, je le crois, à méditer particulièrement dans ces temps que nous vivons. Et cet homme s'appelle Daniel, un bien-aimé de Dieu. Et Daniel savait ce que voulait dire avaler ce livre, manger ce livre. Daniel savait ce qu'était la compassion qui vient du cœur même de Dieu. Daniel savait ce qu'était l'amertume. Et Daniel a cherché Dieu. Et Daniel a lu ces paroles de Jérémie. J'ai commencé par vous lire ce verset 11, mais j'aimerais vous lire le verset 10 qui dit « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, j'interviendrai pour vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous faisant revenir dans ce lieu. » Cette parole s'adresse au peuple de Juda qui était captif à Babylone. Le temple avait été détruit et Dieu promettait de le faire revenir sur la terre d'Israël pour reconstruire le temple, pour que la présence de Dieu soit ramenée. Ainsi, bien-aimés, dans le chapitre 9 de Daniel, nous lisons qu'une année avant, en 539, Daniel a lu ces choses dans les livres. Il a médité ces choses. Et quand il a vu ces choses, quand il a perçu ces choses, est-ce que Daniel s'est réjoui? Est-ce que Daniel a été heureux? Il aurait pu l'être, bien-aimé, comme nous pouvons l'être, en ayant reçu des paroles pour une région, en ayant reçu des choses dans notre cœur, là où le Seigneur nous appelle. Quelle a été la réaction de Daniel lorsqu'en 539, une année avant le terme de cet accomplissement qui manifesterait la bonté et la miséricorde de Dieu, l'agir de Dieu ramenant ses captifs sur la terre d'Israël, sa réaction, bien-aimé, elle a été une réaction de repentance. La repentance en grec, nous pourrions dire que cela veut dire changer, changer sa manière de voir. La repentance en hébreu, ça veut dire le retour, ça veut dire revenir. Nous avons besoin de l'un et l'autre. Changer notre manière de penser, changer nos sentiments, pour qu'ils ne soient pas les nôtres, mais ceux de la croix et du cœur même de Dieu, percés par la lance. Et nous avons besoin de revenir. Nous avons besoin de demeurer en lui, afin qu'il demeure en nous, pour que là seulement nous fassions les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et des œuvres encore plus grandes qu'il a fait lui-même sur la terre. Parce qu'il règne dans les cieux, et nous serons chacun ses parties formant son corps, qui lui permettra d'agir avec encore plus de gloire et de puissance partout où il nous enverra. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac. Voilà la réaction du prophète Daniel, bien-aimé de l'Éternel, face aux promesses d'un agir de Dieu pour son peuple. Alors ma question est, si nous voulons voir Jésus élevé sur cette région, si nous voulons voir la lumière du Messie briller avant son retour, sommes-nous prêts à changer et sommes-nous prêts à revenir à l'Éternel? Sommes-nous prêts à être dans le jeûne et la prière, à revêtir le sac et la cendre? Ce jeûne, c'est le véritable jeûne au sens biblique du terme. De nos jours, il y a beaucoup de personnes qui jeûnent. Le véritable jeûne de la parole de Dieu, c'est un jeûne qui humilie l'homme naturel et qui le met à terre pour que Jésus s'élève. Et nous avons besoin de nous arrêter. Comme le dit le psalmiste, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Voilà le cœur de ce que nous avons besoin. Nous arrêter pour savoir qu'il est Dieu. Bien-aimés, Daniel a commencé par dire « Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. » Nous avons besoin de tourner notre face vers le Seigneur Dieu. Et ainsi seulement, nous serons brisés. Mais tourner sa face vers le Seigneur Dieu veut dire détourner sa face de soi-même. Vous savez, le psaume 115 nous dit quelque chose à propos des idoles, quelque chose que l'on connaît bien. Verset 5, « Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. » Si nous voulons être les pieds de Jésus, les mains de Jésus, les oreilles de Jésus, le nez de Jésus, comme le dit le prophète Ésaïe, Jésus respirait la crainte de l'Éternel. Si nous voulons avoir ces choses qui étaient en Jésus-Christ, nous sommes appelés à mourir, à renoncer à nous-mêmes. Il n'y a pas d'autre chemin. L'idole que nous sommes, à laquelle toutes les autres idoles s'attachent, a besoin d'être abattue. La plus grande idole, c'est nous-mêmes. Vous savez, vous pouvez couper un arbre de toutes ses branches. L'arbre finira toujours par repousser. Vous pouvez même couper le tronc. L'arbre finira par repousser. Tant que vous n'irez pas jusqu'à le déraciner, alors un autre arbre portant du fruit ne pourra pas être planté à sa place. Et nous avons besoin, comme Daniel, de tourner notre face vers le Seigneur et, par sa lumière, de voir la lumière de nos ténèbres, la lumière de ses racines que Dieu veut déraciner pour alors planter ce plan que le Père Céleste plantera. Et ce plan ne sera pas déraciné. Ce plan sera un fondement pour l'œuvre de Dieu qu'il sera en place et qui ne bougera pas. Ce plan sera un térébinthe. Ce plan sera un cèdre du Liban. Ce plan sera un arbre vigoureux parce qu'il tirera sa force du ressuscité lui-même. Et c'est ce dont nous avons absolument besoin. Mais pour cela, nous avons besoin des oreilles de Jésus. Pour alors avoir les mains de Jésus, les pieds de Jésus, le cœur de Jésus. Et si vous méditez sur tout cela, sur toutes ces choses, bien-aimées, il n'y a que du sang. Les mains de Jésus, elles sont percées. Ses pieds, ils sont percés. Son cœur, il est percé. Méditez le ministère de Jésus. Il a été percé chaque fois qu'il a dû parler. Il a été en butte à la contradiction. Lorsque Pierre a reçu cette révélation bénie que Jésus était le Fils du Dieu vivant, cette révélation qu'il n'a reçue ni de la chair ni du sang. Jésus a dit que sur cette révélation, il établirait son Église et que les portes de la mort ne tiendraient pas contre elle. Mais peu après, alors que Jésus a commencé à leur parler de ses souffrances, qu'il devait se rendre à Jérusalem, Jérusalem, le lieu où il est monté, le lieu où nous sommes tous appelés à revenir en communion avec le peuple d'Israël qui est dans des souffrances, qui est dans un combat que parfois nous chrétiens, nous oublions totalement, louons Dieu pour son miel et ne percevons pas cette amertume de ce peuple d'Israël qui croule sous la terreur, ne percevons pas cette amertume, cette consécration que nos frères au travers du monde vivent au sein de la persécution. Nos bien-aimés qui sont là de Corée doivent savoir de quoi je parle. Et s'ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes, renseignez-vous sur l'histoire de la Corée, sur ce qu'ont vécu leurs pères, des gens qui ont versé leur sang, bien-aimés. Aujourd'hui, dans divers pays musulmans et même d'autres, des gens qui brûlent pour le nom du Seigneur, qui se font brûler, sur qui on jette de l'acide, et qui se tiennent et qui se tiendront jusqu'à la fin pour le Seigneur. Nous sommes dans la partie du monde la plus terrible, bien-aimés. Parce que cette partie du monde croit et l'Église est entraînée dans sa folie. Qu'elle se porte bien, comme ce peuple d'Israël au temps d'Amos. Croyez être un peuple béni. Parce que nous ne souffrons pas, parce que nous ne sommes pas dans un combat physique, nous ne percevons pas le véritable combat spirituel. Alors nous nous endormons, parce que nous vivons ces jours de Noé. Et c'est pourquoi, si nous ne faisons pas, et j'ose le dire, l'effort journalier de venir à Dieu, d'aller vers lui, de rechercher sa face, de se tourner vers lui, il ne pourra pas mettre ses chances dans notre cœur. Cette conscience de ce qu'est la véritable consécration, de ce qu'est la véritable souffrance des gens que l'on croise, cet esprit de supplication et de prière qu'avait pu recevoir Daniel, qu'avait pu recevoir Esdras, dans ces mêmes chapitres 9, vous pouvez voir ce que ces hommes de Dieu avaient. Un cœur percé, un cœur brisé, s'humiliant pour le peuple. Ces choses, elles ne viendront pas en louant Dieu, bien-aimé. Elles ne viendront pas par le miel. Elles viendront par le fait de descendre dans nos entrailles et de contempler Jésus et Jésus crucifié. Jésus a dit à ce Pierre, qui venait d'être visité par le Seigneur, par l'Esprit de Dieu le Père, « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Il est allé jusqu'à lui dire qu'il lui était en scandale, et de lui dire « Arrière de moi, Satan !» Ô bien-aimé, Satan est plus malin et plus subtil que ce que nous croyons. Je répète, Satan, le prince de ce monde, le prince du mystère de l'iniquité qui arrive à son comble, est plus malin et plus subtil que ce que nous croyons. Et il agit avec subtilité dans nos cœurs, par la tiédeur, par la non-conscience de notre péché. Mais plus nous avançons vers Dieu, plus il s'approchera de nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. J'aimerais vous donner encore deux paroles avec un cœur, je dirais, soucieux de ce qu'elles puissent être révélées profondément dans le lieu secret de chacun. Des paroles qui, je crois, sont pour l'Église en général d'aujourd'hui. Des paroles qui ont été reçues par une personne consacrée dans la prière, sachant que je venais aujourd'hui. Des paroles que j'hésitais à vous dire, mais que je vous laisse en méditation. Jacques 4, verset 6 jusqu'au verset 10. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Bien-aimé, ce n'est pas avec joie, et même avec entrain, que je vous donne ces paroles, que je vous parle de Daniel, mais c'est avec vérité. Si nous ne passons pas par là, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Je crois que Dieu veut visiter cette région. Je crois que des promesses ont été reçues pour cette région. Je crois à des cris de joie. Je crois à des signes, à des miracles, à des prodiges. Je crois à des conversions réelles. Je crois à un agir de Dieu. Je crois que Dieu peut s'élever puissamment sur cette région, bien-aimé. Mais si nous disons Alléluia, nous le proclamons. Et si nous ne passons pas par ce quoi est passé Daniel, si nous ne passons pas par ces paroles de Jacques, je le dirai avec vérité, je ne le croirai pas. Tout authentique réveil est passé par la repentance. Tout authentique réveil est passé par les larmes. Si nous voulons faire l'économie de ces choses, nous ne verrons pas d'authentique réveil. Et je n'insisterai plus maintenant, mais je vous inviterai de tout mon cœur, bien-aimé, à passer du temps avec Dieu, à passer du temps dans la parole de Dieu, à vous sanctifier, à purifier vos cœurs, à être seul à seul avec Dieu, à prier dans un face-à-face, d'être seul, seul, seul avec le Seigneur. Et pas qu'un quart d'heure, et pas qu'une demi-heure, passez du temps. Approchez-vous vraiment de Dieu. Qui connaît Dieu? Qui a une communion avec Dieu? Qui vit au-dedans de lui, pas quand il loue, mais parce qu'il connaît le Seigneur? Qui a vu le Seigneur? Le prophète Ésaïe, il a vu le Seigneur au temps de l'année de la mort du roi Ozias. Ce roi qui, avec entrain peut-être, avec orgueil, était rentré dans le temple pour offrir du parfum. Eh bien, l'année de la mort de ce roi, Ésaïe, le prophète, vit le Seigneur assis sur son trône élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Qui a ce témoignage en lui de Christ ressuscité? Qui a ce témoignage en lui de cette amertume dont je vous parle? Qui apportera la bénédiction véritable et la pleine bénédiction, bien-aimée? La pleine joie, la véritable joie du ciel, par laquelle on n'a pas besoin d'être entraîné par quelque cantique que ce soit, mais par la puissance véritable du Saint-Esprit de Dieu qui vient du ciel, qui a ce témoignage. Approche-toi de Dieu! Approche-toi de Dieu! Tu vas le connaître comme jamais! Mais nous sommes ce peuple de paresseux. Nous n'arrivons pas à nous arrêter. Nous vivons dans un train qui va à 200 à l'heure. Nous vivons dans une insouciance qui nous conditionne. Ce monde est rentré dans l'église. Et qui se sanctifie? Qui se purifie? Ce roi bien-aimé Ozias, il est mort après que la lèpre soit venue sur lui. Pourquoi? Parce qu'il est venu dans le temple de Dieu, croyant pouvoir servir Dieu sans avoir été sanctifié par Dieu, sans connaître Dieu. Et seuls les sacrificateurs de l'Éternel pouvaient s'approcher de Dieu pour offrir le parfum. Vas-tu être un sacrificateur? Ou par le souverain sacrificateur? Par les plaies du souverain sacrificateur, par le cœur du souverain sacrificateur, parce que tu le contempleras jusqu'à ce qu'il se forme en toi et t'apporte une communion avec Dieu qui fera que tu vas pleurer pour ta génération. Pas proclamer des choses, mais pleurer pour ta génération. Être à genoux pour ta génération, sentir la détresse, la dépression, les pratiques occultes, sentir toutes ces forteresses sur cette région. Vous savez, bien-aimés, les sacrificateurs, vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 8, avant d'avoir pu officier, afin que la gloire de Dieu descende, vous savez ce qu'ils ont fait, ce que Dieu a demandé à Moïse qu'il fasse. Ils ont dû se mettre nus, bien-aimés, nus devant tout le peuple d'Israël qui avait été convoqué, être purifiés par l'eau. Qui est prêt à se mettre nus? Qui est prêt à confesser ses péchés? Si nous ne nous mettons pas à confesser nos péchés, je le dis ouvertement, librement devant tous, nous n'aurons pas cette cohésion, cette unité de Jésus-Christ. Nous serons encore comme un doigt, comme un pied, comme un cœur, comme une bouche, non sanctifiés et qui ne peut pas marcher ensemble. Parce que seul Jésus-Christ fera l'unité. Et pour que Jésus-Christ, comme ses sacrificateurs étaient alors revêtus de fin lin, pour que Jésus-Christ revêtissent de ces habits de fin lin. Nous devons nous mettre à nu. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons voir notre misère. Alors ces sacrificateurs, Dieu avait demandé à Moïse de leur mettre du sang sur le lobe de l'oreille droite pour qu'ils puissent entendre Dieu. Sur le pouce de la main droite, pour qu'ils puissent servir Dieu au travers du sang préfigurant le sang de Jésus-Christ. Sur l'orteil du pied droit, pour qu'ils puissent marcher au travers de ce sang et de cette consécration. Et ces sacrificateurs, ils avaient été oints ainsi de l'onction de Dieu. Tel que ne l'était pas Osias, est-ce que nous allons être ces sacrificateurs? Et ainsi, revenir au fondement de Dieu pour faire les choses sur notre région, selon Dieu, selon les fondements de Dieu, selon l'ordre de Dieu, pour voir la gloire de Dieu. Le feu de l'authentique réveil ne viendra que de la consécration et ne viendra que du feu de l'Éternel. Et ce feu n'est pas notre feu. Ce feu, lui seul, peut l'allumer. Et il s'allume dans le lieu secret. Bien-aimés, avant de terminer avec ces paroles d'Ésaïe, j'aimerais vous citer ce verset de Corinthiens. 2 Corinthiens 4 qui dit « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu. » Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » et oui, je le proclame bien sur cette région et sur votre église et sur chacune de nos vies. « La lumière brillera du sein des ténèbres » Il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La gloire de Dieu, elle est sur la face de Christ. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il te faut voir la face de Christ. Oh, garde ça au plus profond de ton cœur. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il te faut voir la face de Christ. As-tu vu la face de Christ? As-tu vu la face de l'agneau? As-tu vu le Seigneur? Ésaïe, lors de la même année que ce roi était mort, en pensant vouloir servir Dieu, peut-être avec son entrain, avec tout ce qui l'habitait, sans être un sacrificateur de l'Éternel, vit le Seigneur assis sur un trône élevé. Et il a vu des anges, et il criait l'un à l'autre, et il disait « Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les portes, elles ont été ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison, elle s'est remplie de fumée. Dans les Actes des apôtres, vous voyez les apôtres crier à Dieu avec un cœur brisé. Oui, ils invoquent le Seigneur d'étendre sa main. Mais c'est des gens qui, lorsqu'ils étaient en prison, louaient Dieu. Lorsqu'ils étaient battus de verges, se réjouissaient d'avoir souffert ces choses au nom du Seigneur. Parce que c'est des apôtres qui avaient vu Jésus. Et nous avons besoin de voir le Seigneur. Alors, je ne veux pas parler de vision. Il ne faut pas chercher des expériences. Mais le brisement, la consécration qui te fera voir Jésus. Et tu sauras que tu as vu Jésus de la même manière. Ce témoignage sera établi dans ton cœur comme il l'était dans ses apôtres. Alors comme eux, tu pourras prier. Alors comme Ésaïe, tu pourras prier. Alors cette maison tremblera. Et alors Dieu étendra sa main. Et alors sa lumière pourra se répandre sur cette terre. Alors bien sûr, quand ces choses viennent, et c'est ce que nous avons besoin, Ésaïe a dit « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Si nous le contemplons, nous verrons notre impureté, nous verrons l'impureté du peuple. Alors Dieu, comme il vient avec un ange dans ce texte, avec ce charbon ardent pour expier le péché, Dieu viendra lui-même se lever au milieu de notre génération avant de la frapper par l'interdit, et viendra expier le péché de cette région. Viendra expier le péché de ce peuple assis dans les ténèbres sur lequel Dieu veut faire poindre sa lumière. Alors Ésaïe, devant cette vision de Dieu, entend ceci. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, envoie-moi. Ma conclusion, elle est celle-ci. Oui, Le Seigneur revient bientôt. Et son jour est un jour terrible. Son jour est un jour de ténèbres pour ce monde, et non pas de lumière. Et nous sommes appelés à être cette lumière du monde. Souvent, quand je m'endors sur ma couche, bien-aimé, je pense et je médite, et je me dis pour moi-même qui vous parle, lorsque le Seigneur reviendra dans sa gloire, aurai-je des regrets ? Aurai-je des regrets ? Ô bien-aimé, puisses-tu ne pas avoir de regrets ? Ce monde va passer. Le Seigneur revient bientôt. Il est temps de se lever pour le servir. Il est temps de le connaître. Il est temps de revenir à lui. Il est temps de tout donner. De tout donner. Vous me chercherez de tout votre cœur. Il est temps d'avoir un cœur entier pour le Seigneur. Il est temps de ne plus faire de compromis. Il est temps que nous nous rassemblions, bien-aimés, comme un seul homme et un seul homme nouveau qui s'appelle Jésus pour être son corps. Oh, puissions-nous ne pas avoir de regrets. Puissions-nous ne pas être ces insensés sauvés comme au travers du feu qui se diront « Je ne réalisais pas, je ne me rendais pas compte. » Je disais « Amen » alors qu'on lisait ces paroles qui me disaient que le chauffard sonnait, mais que l'on répondait que nous n'y étions pas attentifs. Et pourtant, je n'étais pas attentif. Je disais « Amen » quand l'on me disait que la chrétienté n'entendait plus. Et pourtant, moi-même, je n'entendais pas. Mets le sang sur tes oreilles. Alors tu auras le sang sur tes mains et sur tes pieds pour faire l'œuvre de Dieu. Et comme Paul le disait à Timothée, alors Dieu lui-même t'exhortera. Remplis bien ton ministère, parce que c'est le temps de tout donner. Et ce ministère, c'est le ministère, et ce sera le ministère de Jésus. Si nous nous assemblons tous pour revenir à l'Éternel, pour le laisser nous changer et faire de nous un seul homme pour, selon ses fondements et selon ses voies, agir. Alors je crois que de nombreux chrétiens viendront, reviendront, se reconsacreront. Et comme l'a dit notre sœur, cela commence par l'Église, par les chrétiens, avant de se faire sur le peuple. Puissions-nous entendre la voix de Dieu ? Puissions-nous entendre le chauffard de Dieu ? Et la mettre en pratique, que le miroir que je vous ai mis ce matin devant les yeux, vous puissiez le garder profondément comme une parure à l'intérieur de votre cœur et quotidiennement, chaque aujourd'hui que Dieu fait, parce que votre vie est bâtie de chaque aujourd'hui. Et les aujourd'hui se font de plus en plus rares. Le temps s'enfuit, le Seigneur revient bientôt. Ne réagis pas trop tard, lève-toi, va vers Dieu et laisse-le t'envoyer pour le servir.